Emilio Vacano, le testament du docteur Irnerius. Je ne crois pas au revenant. Je n'ai pas le talent de découvrir des traces de sang ineffaçables sur le parquet d'une chambre depuis longtemps inhabitée. Seulement, je suis allemand et Nuremberg est mon pays natal. Étant encore tout petit garçon, j'étais souvent assis pendant les longues soirées d'hiver sur les genoux de Linchen, notre vieille servante, qui me racontait toutes sortes d'historiettes, sans oublier celle de la méchante reine avec sa pomme empoisonnée et celle de l'ogre, de sa femme et de sa maisonnette. Pendant qu'elle parlait, les arabesques des papiers peints de la chambre se pelotonnaient, formaient des lutins bossus, difformes, et dans le crépuscule vibrant qui envahissait la haute chambre lambrissée, je voyais tous les contes bleus de Linchen monter et descendre le long des murs. Et puis je naquis à Nuremberg. Là, on peut dire que les morts se promènent parmi les vivants. Cette fenêtre contournée, c'est celle par laquelle Albrecht Dürer regardait dans la rue. Ces marches creusées, crevassées, couvertes de mousse, ce sont celles que monta Eppelin de Gallingen quand il épousa la riche Offine. Dans cette rue écartée, avec ses frontons en saillie, un fougueur a été assassiné. Par qui ? Seules les têtes de lion sculptées dans la pierre au-dessous de la porte de cette auberge de cordonnier, grise, déjetée, croulante, pourraient le dire. Mais elles ont gardé leur secret et le garderont toujours. Dans les magasins de Nuremberg, la plupart des objets ont une physionomie. Les marteaux de porte, les mortiers en laiton, les grelots de traîneaux, les cafetières, les poupées, les pains d'épices, regardez-les. Ils s'animent et semblent vous faire la grimace. Et moi, je voyais tous ces spectres. Au reste, je suis un jeune homme très raisonnable, très réservé, et pas du tout excentrique. Je m'appelle Erwin Imhoff. J'ai suivi mes cours à l'université d'Heidelberg, où j'ai vécu après comme homme de lettres. Je suis seul au monde. Une vieille tante, qui dans sa jeunesse avait aimé tendrement un officier de la Landwehr de 1809, et ne se consola jamais de la mort de ce brave homme, m'a laissé un modeste revenu. J'avais voulu me faire avocat, mais il m'était impossible de prononcer un discours. Les spectateurs, les juges et le bourdonnement de la salle me décontenançaient, me faisaient tourner la tête. Et ce qui me troublait par-dessus tout, c'était la vue du pauvre diable que j'étais chargé d'accuser ou de défendre. Sa pâleur et l'angoisse mortelle qui semblait secouer tout son corps me serraient la gorge, m'étranglaient. Ou bien son insolence et sa scélératesse me suffoquaient. Ne pouvant faire un bon avocat, je travaillais à devenir un savant. Alors, j'aimais à rêver autour des vieux tombeaux, des Huron, je me transportais en esprit dans les palais sépulcraux des Égyptiens, où l'air pénètre à peine et où règne un terrifiant silence. J'avais de tous côtés, étudiant, déchiffrant, couvant des yeux les inscriptions des pierres d'Attila de l'Allemagne du Sud, les sarcophages des filles des rois qui avaient été si belles et dont les traits sont aujourd'hui rongés par le temps comme par une plaie hideuse. Et je me mis à écrire 3 gros volumes traitant des bagues, des glaives et des chaînes en métal des tombeaux allemands. Puis 2 minces fascicules sur les fleurs de lotus peintes sur les fronts des masques égyptiens. Ensuite, je me jetai avidement sur les procès des sorcières du Sviet et m'enfonçai entre les perruques des juges et les bénitiers des prêtres, dans toute une forêt de manches à balais, au-dessus de laquelle pétillait, craquait et dégouttait la torchère du bourreau. Je crois mon nom connu dans le monde savant. Ma chambrette à Heidelberg était blanchie à la chaux, petite mais très gentille. La vieille Lise époussetait tous les jours mes livres et c'est sa main soigneuse qui nettoyait les verres de lampe. Le petit Hans, du restaurant du Lion d'Or, m'apportait tous les jours mes repas. Par les beaux soirs d'été, j'allais me promener loin, très loin, par les champs et par les veaux, et je revenais chez moi à la tombée de la nuit, durant laquelle je dormais délicieusement. Mais en hiver, je n'aimais pas à me promener. Alors la lampe brûlait jusqu'à 1 heure, très avancée de la nuit, et je me plongeais dans les histoires de sorcières. Quand je quittais ensuite ma table de travail, j'étais très énervé. Je voyais de nouveau s'agiter sur les murs les personnages des contes de ma vieille nourrice. Il n'était pas jusqu'à la serrure de la porte qui ne prit une physionomie. « Mais c'est parce que tu vis toujours seul !» me dit un ancien camarade jovial, qui en passant par Heidelberg va me voir pour me présenter sa jeune femme. Il avait des yeux bruns, les plus gais du monde. « Mais il faut t'aimer, mon garçon » ajouta-t-il. « Alors tes nerfs se calmeront. Peux-tu parier ?»« Mais n'est-ce pas une honte et un péché qu'un jeune homme beau et fort comme toi n'aime pas encore adresser des vers à une jeune fille et n'est pas déjà fixé le jour où monsieur le curé rivera sa chaîne ?» Ces vieux garçons couverts de poussière, vrais rats de bibliothèque, ne changent à se marier que quand ils se sentent pris par la goutte. Ils essaient d'être aimables quand leur ménagère ne peut plus répondre à leur amabilité que par des marques de mauvaise humeur en échange de la peine qu'ils lui donnent. Tu oublies que tu as 25 ans et que tu es assez bien de ta personne pour tourner la tête à une douzaine de jolies filles. Au revoir, et quand je reviendrai, il faudra que nos femmes deviennent des amies, entends-tu? Ou le diable s'en mêlera. C'était vrai, j'avais 25 ans. Resté seul, j'allumais ma lampe et passais devant la glace pour me diriger vers ma table à écrire, où m'attendait la 6e page du Protée infernal. Je m'arrêtais avec la lumière agitée devant la glace, et alors j'aperçus ma figure. Beau ? Bon, j'étais bien pâle, et mes yeux démesurément grands, et ma chevelure claire en broussailles. Avec cela, je n'aurais jamais de ma vie osé dire à une femme que je l'aimais. Mais du reste, je n'en aimais aucune. Dehors, la neige tourbillonnait dans la ruelle étroite. Deux étudiants, avec le ruban, la calotte et la longue pipe, passaient en chantant d'une façon toute joyeuse cette chansonnette du service. Le David et le Salomon, c'étaient deux gros pêcheurs. Ils allaient, venaient, rôdaient partout. Et eurent beaucoup d'enfants. Et lorsqu'ils ne purent continuer à cause de leur grande vieillesse, alors Salomon écrivit ses proverbes, et David écrivit ses psaumes. J'écoutais un moment, puis je montai la lampe, apprêtai ma plume et m'assis devant mon protée infernal. Durant 3 heures, je ne levais plus la tête et ne quittais pas du regard ses lettres en manche à balai. Le dossier de ma chaise devait certainement aussi avoir une physionomie. Chapitre 2. Un jour arriva une lettre de mon oncle Irmerius, le docteur Irnerius. Il était docteur. On l'avait destiné à la médecine, mais il avait préféré se faire maître de chapelle. Mon oncle était la musique incarnée. Dans son violon vivait l'âme des Parnaestrina de Van Wurning de Stradella. Dans sa jeunesse, il avait dirigé des concerts sacrés de London Georgiane. Des cabales et des voix fausses des Anglais l'avaient fait fuir. Il était devenu maître de chapelle de l'opéra italien à Venise. Milan et Naples le connurent dans les mêmes conditions. On faisait courir le bruit qu'il avait épousé une prima donna, une Italienne de naissance noble. Ce qu'il y avait de certain, c'était que si le monde, ni sa famille, n'avait plus entendu parler de lui. Étant encore adolescent, j'appris un jour, chez mes parents, qu'il vivait à Worms, veuf ou célibataire, mais certainement solitaire et misanthrope. Mon père l'avait ouï dire par hasard. Et Irnerius avait commencé une correspondance tiède, formaliste, qui avait bientôt cessé tout à fait. Me trouvant maintenant seul, moi aussi, une lettre vint me rappeler que j'avais encore un oncle. L'écriture de cette lettre était passée de mode, crachée, crochue, ridicule. Et voici ce qu'il m'écrivait. Mon neveu Erwin, j'ai vieilli et je vais mourir. Je désire que tu viennes me voir, car j'ai à te parler. Je sais que tu es seul et libre. Quitte ton appartement. On emporte avec toi tout ce que tu as, car je veux que tu restes chez moi quelque temps. Diurnerus, je pouvais passer mon temps à rêver au dossier des manches à balai, aussi bien à Worms qu'ici. Et puis j'avais été élevé dans le respect de la famille. L'oncle Irnerius était pour moi une puissance légitime qui remplaçait celle de mon cher père. Ensuite, j'étais vraiment seul et absolument libre. Je donnais congé de mon appartement, empaquetais tout ce que je possédais et envoyais le tout à Worms, après quoi je fis mes adieux à mon propriétaire. C'était pendant l'été et les rosiers étaient en fleurs. J'en profitais pour faire le voyage à pied. Je traversais des plaines riantes et gravis des coteaux verts plantés de vignes. Des flèches de clochers brillaient à travers cette verdure. Quand, à midi, le soleil dardait ses rayons, je me couchais dans les ombres de la forêt où les rayons du soleil tamisés par le vert feuillage dansaient follement sur le sol fleuri. Ou bien j'allais m'asseoir dans des buvettes fraîches, complètement à l'abri de la chaleur, où l'on voyait des bouquets de fleurs artificielles sous des verres bombés, et où bourdonnait à la fenêtre ouverte toute une armée de mouches estivales. Que la nature est belle! Alors je ne voyais plus de physionomie, autre que celle d'enfants gentils et charmantes, qui me regardaient timidement quand je passais, et qui cachaient leurs grands yeux derrière leurs mains quand je les abordais. Parfois, la contrée devenait plus rude, plus triste, plus monotone et déserte. Et il se levait des jours mornes, pluvieux, sans éclat. Alors, un ciel gris, monotone, sombre, m'oppressait l'âme. Les pins, au bord de la route, bruissaient sous les rafales de vent, et le beau temps me semblait disparu pour toujours. Je fus bien heureux quand un soir j'aperçus enfin les tours de Worms. À cette heure, l'atmosphère épaisse et grise qui s'abaissait sur toute la contrée pesait en même temps sur le cœur. En passant devant une scierie où les lourds troncs de chêne étaient soulevés avec un bruit sourd par des chaînes solides, je fus rejoint par un ouvrier qui sortait de cet établissement pour se rendre à la ville. Il me dit bonsoir et tout en marchant, nous nous mîmes à causer en échangeant des mots sans suite. Sur la lisière verte d'un champ se dressait une croix dont la peinture était presque entièrement effacée par la pluie. Sur une plaque en fer blanc était représenté, en un dessin grossier, un homme gisant ensanglanté sur la route. Au-dessous se lisait cette inscription également grossière: Ici périt Hans Dorn, le 17 juin 1807. Nous nous arrêtâmes un instant. Est-ce que cet homme est mort par accident? Demandai-je à l'ouvrier. Non, dit-il en faisant passer sa pipe à l'autre coin de la bouche. On le trouva couché sur le dos, la figure cachée soigneusement sous son mouchoir. Le sang lui coulait des tempes. On l'avait jamais vu vivre. Certainement, il a été assassiné. Il n'en a jamais su par qui? Oh, jamais! Nous continuâmes notre route en silence. Ce fait qu'un meurtre avait pu rester impuni me troublait profondément. Impuni pour toujours. Mais cela était-il possible? Je me mis à réfléchir pendant que mes regards spirituels plongeaient dans les profondeurs de la nuit tombante. Je me figurais être à la recherche du malfaiteur autour des étangs solitaires, ou dans les misérables chaumières des paysans, ou bien encore dans les cabarets empestés des villes. Cette sorte d'hallucination m'oppressait la poitrine et tourmentait mes nerfs. Au milieu de mes réflexions, Je souhaitais que l'habitation de mon oncle à Worms fût une maison blanche et joyeuse, située dans une des principales rues, très populeuse et pleine de gaieté. Worms est une ville antique qui semble menacée ruine. L'eau des fontaines se déverse par d'étranges monstres marins très anciens. Au-dessus des portes, on voit souvent des inscriptions dans la pierre. Les toits sont à pignons pointus et les rues très irrégulières. Dans le crépuscule du soir, je me mis à la recherche de la maison de mon oncle. Je la découvris dans une rue étroite et sombre. Toute petite, elle paraissait comme écrasée entre deux maisons, pourtant aussi étroites qu'elle. La façade en était grise, toute crevassée. Dans l'embrasure de la fenêtre du rez-de-chaussée, poussaient des brindilles d'herbe. Sur le toit se dressait une girouette absolument fantastique. Je sonnai et un vieux serviteur blanc, ramassé, à la mine morose, ouvrit la porte, mais ne me laissa pas entrer avant que j'eusse décliné mon nom. Alors il se retira dans le vestibule obscur, me donna passage et monta devant moi un escalier qui craquant à chaque pas. Il s'arrêta dans les ténèbres du couloir. Voilà la porte, dit-il. Attendez un instant, monsieur. Bientôt, je distinguai dans la demi-obscurité une forme carrée. C'était la porte par où venait d'entrer le vieux domestique. Il ne paraissait pas y avoir de lumière au-delà. J'entendais parler à l'intérieur. Peu après, je vis une lueur filtrer sous la porte, et aussitôt celle-ci s'ouvrir. Entrez, monsieur. Me dit le domestique. J'entrai et ne vis d'abord qu'une lampe allumée posée sur une table. Puis j'aperçus un vieillard jaune, ridé, dans une robe de chambre longue et noire, avec de minces boucles de cheveux argentés, assis dans un grand fauteuil noirci par le temps. Dispersé devant lui sur la table des cahiers de musique. Il me regarda de ses grands yeux sombres et éteints, sans prononcer un mot. Bonsoir, mon oncle, lui dis-je en mettant mon chapeau sur la table. Eh bien, me voilà. Tes bagages sont déjà arrivés, fit-il. Puis il me regarda de nouveau. Ensuite, il me tendit la main et me dit: Sois le bienvenu, mets-toi à ton aise. Franck te conduira à ta chambre. Après, tu pourras descendre et nous souperons. Puis tu te coucheras. Tu dois être fatigué. Sois le bienvenu. Merci, mon oncle. Chapitre 3. Mon oncle était un vieillard taciturne, jaune et sec comme une momie. Sa main tremblait et sa tête s'inclinait parfois faiblement sur sa poitrine. C'était une vie près de s'éteindre. Il me demanda des nouvelles de mon père. Mais de lui-même, il ne me disait rien. Il ne disait pas même qu'il était malade. Le vieux Franz servait à table. Il y avait aussi un vieux chien qui s'appelait Médor. À peine pouvait-il marcher, et il avait beaucoup de poils blancs sur sa peau d'un noir mat. Les vieux chiens sont toujours laids et répugnants. Le vieux Médor était toujours couché sous le fauteuil de son maître, et quand celui-ci faisait claquer ses doigts faibles et tremblants, c'est à peine si Médor pouvait entrouvrir les paupières. Nous dînâmes dans la petite chambre où mon oncle m'avait reçu. Pendant le repas, je regardais les murs. Il y avait un petit orgue dans un coin et à côté un porte-violon où trois violons étaient accrochés. Un seul tableau était appendu au mur, juste au-dessus du lit du vieillard. C'était un portrait de femme, une tête étrange, aux cheveux poudrés, la tête seulement, sans gorge, sans buste, tranchée juste au-dessous du menton et se dessinant sur un fond brun d'une teinte monotone. Un toupet poudré sur une figure, rien de plus. Une figure belle et triste, avec des yeux légèrement rougis. Un tableau, en un mot, très singulier. Je dormis dans une grande chambre garnie de vieux meubles, passée de mode avec tout le confort du dernier siècle. Le lendemain, dans la matinée, le vieux Franz m'apporta tout ce qu'il me fallait pour ma toilette. Après quoi, je ne vis personne jusqu'au dîner. Je n'entendais de temps à autre que les pas lourds du vieux domestique. Mes malles étaient arrivées sans la moindre avarie. Je rangeai mes vêtements dans l'armoire et parcourus quelques livres qui se trouvaient sur le rayon de ma chambre. Je disposai ensuite du papier pour mes études et pour mes travaux en cours, le protée, la contrainte infernale et les notes sur Marguerite Hämmerling. À midi, Franz vint me parler de descendre pour le dîner. Nous prîmes de nouveau notre repas dans la chambre de mon oncle. Quand il fut achevé, je me disposais à me retirer dans ma chambre, mais mon oncle m'invita à rester. Je pris une chaise et allai m'asseoir à côté de son fauteuil, un véritable fauteuil de grand-père. Le vieillard releva péniblement la tête et dirigea vers moi ses yeux sombres, presque éteints. Il étendit lentement le bras, plaça sur le mien sa main amaigrie et me dit: Écoute, tu as bien fait de venir tout de suite, car je suis pressé. Mais pourquoi presser, mon oncle? Mais ne vois-tu pas que je meurs? Oh, mon oncle! Bien, bien, n'aie pas peur. Je suis très âgé. La mort s'est fait attendre longtemps. J'ai l'envie après elle comme après une compagne dont on a besoin pour faire le dernier pèlerinage. Mais c'est aujourd'hui que nous devons en finir, ou bien il sera trop tard. Je ne comprenais pas. Je regardais dehors. Il faisait du soleil, mais les vitres ternes ne laissaient entrer qu'un demi-jour. Mais ne m'interromps pas. Tu auras bien le temps de t'étonner quand je serai parti. Et c'est pour aujourd'hui. Partir aujourd'hui, mon oncle? M'interrompez pas, je te dis-je. Tu recevras feu, mon frère. Tu as mené une vie tranquille et honnête. Tu n'es pas un fat, au contraire, tu es un homme rangé de ton sens rassis. Depuis hier, j'ai pu me persuader que tu possèdes toutes ces qualités. Tu es le seul parent que j'ai en ce monde. Et je t'ai prié de venir parce que je veux te charger de l'exécution de mon testament. Je suis un mourant, et celui qui honore la dernière volonté d'un mourant sera bien vu de Dieu. Oui, mon oncle. Son discours était solennel malgré son étrangeté, et je ressentais vivement jusqu'au fond de mon cœur la gravité de cette heure. Je ne m'étonnais de rien. J'écoutais en silence. C'est bien. Tu es le digne fils de mon pauvre cher frère, avec lequel, étant enfant, je cueillais des fleurs jaunes dans la prairie pour faire des chaînes avec leurs tiges, assis au bord de la rivière. Des cahiers dispersés sur la table, il tira une lettre pliée et cachetée, mais sans me la donner. Oui, je lui ai dit que je partirais aujourd'hui, car personne dans cette ville ne doit se douter de ma mort. Ne m'interromps pas. Irvine, ne m'interromps pas. Ni les voisins, ni personne de la ville ne doivent se douter de ma mort. Plus tard, tu sauras pourquoi. Écoute, je partirai aujourd'hui avec Franz pour aller mourir ailleurs dans quelques jours. Déjà, ma vue s'obscurcit, la respiration est difficile, mes doigts ne veulent plus rien tenir, je ne me sens plus mes pieds. Mais, mon oncle, pourquoi voulez-vous? Tu resteras ici, continua-t-il d'une voix de plus en plus faible, et tenant toujours la lettre dans sa main tremblante. Tu vivras et demeureras ici. La sœur de France te servira et fera ton ménage. En dehors de ce que tu possèdes en propre, tu trouveras dans le tiroir de mon secrétaire les titres de ma petite fortune particulière. Tu jouiras des intérêts de cette fortune jusqu'au jour où tu devras exécuter mon testament. Ma fortune principale est déposée chez le banquier Händel, dans la rue du Haut-Doubs. Depuis des années déjà, les intérêts sont joints au capital. Les titres de cette fortune sont inscrits au nom de de mon héritier, inclus dans mon testament. Ils ne sont valables que pour l'héritier lui-même. Je puis me fier à toi. Tu es le fils de mon frère et je connais ta vie. Cette lettre contient mon testament. Tu n'y toucheras pas. Aucune curiosité, aucun caprice, aucun désir ne doit t'inciter à briser le cachet avant le moment où tu devras exécuter mes volontés. Et quand ce moment arrivera-t-il, mon oncle ? Il leva lentement la tête, et de sa main hésitante, qui venait de laisser tomber la lettre sur la table, il indiqua le portrait accroché au-dessus de son lit, la tête de J'aime, qui s'accusait, inachevée, sur le fond brun du tableau. « Quand cette tête se présentera devant toi vivante et te dira mon nom, » me répondit-il. Je me levai en sursaut, il était fou. Mon oncle Homerius laissa retomber sa main et me regarda, tandis qu'un sourire étrange errait sur sa figure expressive. « Tu me crois fou, » dit-il. « Oh, je t'assure que j'ai toute ma raison. Voici ma main droite et voilà ma main gauche. Et devant moi, c'est bien toi, Erwin Imhoff, mon neveu. Là-bas, c'est une peinture qui ne pourra jamais sortir de son cadre. Mais je suis 3 fois plus âgé que toi. Je suis un mort et ceci est mon testament. Voilà ma dernière volonté. Vis ici. Travaille ici. Reste ici tranquille et aussi content que tu l'étais dans ta dernière demeure. Et quand, un jour, ce portrait s'animera et prononcera mon nom, ouvre mon testament et conforme-toi à toutes les prescriptions qui y sont contenues. Mais si dans le long cours de 20 ans, ce portrait ne s'anime pas et ne prononcera pas mon nom devant toi, tout appartiendra, ainsi que je l'ai décidé, par ce même testament. Tu verras alors si je suis fou. Je serai mort depuis longtemps et tu pourras ensuite, à ton tour, mourir tranquillement dans cette maison que je te laisse. Mais tu me jurerais d'exécuter religieusement ce dont te prie le frère de feu ton père ? Je sentis que ma gorge se serrait. J'étais incapable d'aucune pensée. Oui, mon oncle, lui répondis-je en lui tendant la main. « C'est bien, monte maintenant à ta chambre et n'en descends plus qu'après mon départ. Les habitants de cette rue savent que je vais faire un voyage et que tu vas administrer ma maison. Ne t'arrête pas à la porte, ne m'accompagne pas en bas de l'escalier. Quand tu entendras ma voiture s'éloigner, descends. Tu trouveras alors la vieille servante et tu prendras possession de la maison. Les livres de ma bibliothèque te seront peut-être utiles. » Elle est nombreuse et contient des exemplaires curieux et rares. Ah, encore une chose. Sa figure impassible, éteinte, parut s'animer et son œil brillait d'un faible éclat. De nouveau, mon oncle leva la main vers le portrait et dit « L'original de cette figure est mort, n'est-ce pas ?»« Oh, probablement, lui dis-je, le portrait est vieux. »« Eh bien, songe que la vieillesse et la décomposition » On fait sur cette figure les mêmes ravages qu'elles font sur des joues roses, sur une peau blanche et sur des yeux à l'éclat d'azur. Il n'y a que l'âme qu'elles ne peuvent atteindre. Elle perce et se révèle toujours avec la même netteté dans les traits de l'homme, si vieilli, si bouleversé qu'il soit. Reconnaîtrais-tu cette figure ?
Je le crois, mon oncle.
Eh bien, donne-moi maintenant un violon. Tu ne m'as jamais entendu jouer ?
Non, mais je sais que vous êtes un artiste.
Oui, j'étais, mais je ne puis plus tenir l'archet. Palestrina, Harming, combien de temps s'est écoulé depuis que vous ne m'avez plus parlé ? Je ne veux plus entendre mes notes discordantes, Erwin, mais j'emporte le violon. Peut-être reviendront-ils vers moi, les immortels, puisque la fin approche. Je languis après eux. Durant de longues années, je n'ai vu personne qu'eux seuls, eux seuls.
En entendant parler le vieillard avec cet attendrissement désespéré, j'eus un déchirement de cœur. Je lui tendis le violon et l'archet. Il les saisit avec peine et de l'instrument s'échappa un faible son. Il promena l'archet sur les cordes, et une note longue et soutenue vibra comme une douce plainte dans l'air. Puis il laissa retomber ses mains trop faibles. « Cela ne va pas, » dit-il tristement. Et sa tête se pencha sur sa poitrine. Pour la première fois, l'idée me vint que ce n'était pas la vieillesse qui l'avait tant affaibli, mais un mal caché, impitoyable, navrant. Tout effrayé, je m'inclinai vers lui. Mais, redressant la tête, « Va-t'en maintenant, » me dit-il, « va, tu sais ce que tu as juré sur la mémoire de ton père. » « Oui, mon oncle, sur la mémoire de mon cher père. » Chapitre 4. Jamais le soleil n'éclairait complètement la ruelle étroite et tortueuse aux vieilles maisons tranquilles, mais il entourait du moins les frontons. Une fontaine babillait au bout de la rue. Vis-à-vis de la maison de mon oncle était un atelier où sciaient et rabotaient des menuisiers. Un adolescent chantait. Au second étage, en saillie de la maison voisine, une jeune fille arrosait ses pots de mignonnette, et le premier étage de la maison d'en face était inhabité et les persiennes des fenêtres étaient fermées. Un oiseau gazouillait là-haut dans les airs. Sauf ce peu de mouvement, tout se taisait dans la ruelle. Soudain, le silence fut interrompu par le roulement d'une voiture qui s'arrêta devant notre maison. Je m'étais écarté de la fenêtre. Assis sur un vieux sofa, je prêtais l'oreille à tous les bruits. Les portes s'ouvraient, se refermaient. Les pas de Franz retentissaient dans les couloirs, en même temps que d'autres plus légers. Et puis d'autres encore plus lourds, comme si l'on descendait des bagages. Ensuite, des pas traînant lentement. Et moi, je m'approchais de la fenêtre, attiré malgré moi. Franz, aidé du cocher, souleva à l'ongle une mère russe et le plaça dans la voiture. Il ne leva pas les yeux. Il gémissait et de ses mains crispées, il s'accrochait à son domestique. Franz s'assit à ses côtés. Le cocher ferma la portière et la voiture s'éloigna avec un roulement sourd et morne. Les vitres tremblèrent, le pavé de la rue résonna. Sur le seuil de la porte se tenait une vieille femme vêtue très proprement et que je n'avais pas aperçue jusqu'alors. Quand la voiture se fut éloignée, elle entra dans la maison et referma la porte sur elle. Alors le chant recommença et je m'aperçus qu'à ce moment que le jeune menuisier s'était tu, que la jeune fille, derrière les pots de fleurs, avait regardé, et qu'un petit garçon, une cruche à la main, s'était arrêté. Puis tout disparut, et la rue retomba dans son silence habituel. Je respirai profondément et sortis de ma chambre. Dans le couloir, la porte de la chambre de mon oncle était toute grande ouverte, et la vieille femme, que j'avais vue tout à l'heure par la fenêtre, se tenait sur le seuil. Elle me fit une solennelle révérence. « J'allais monter chez monsieur, » dit-elle en lissant son tablier. « Je suis la sœur de Franz. C'est moi qui ferai le ménage de monsieur, s'il me le permet. » Elle allait continuer de parler, mais un gémissement prolongé vint l'interrompre. Je jetai un regard dans la chambre et je vis le pauvre vieux Médor qui était sorti péniblement de dessous le fauteuil. Il bâillait, flairait et se peignait faiblement. J'étais désormais chez moi et seul dans ma nouvelle habitation.